Nous continuons notre série sur Philippiens et nous terminons ce qui est devenu une trilogie du sorte de message du chapitre 2 sur le plan thématique. Tous ces passages se rejoignent et je devrais donc vous rappeler périodiquement certains des points principaux des messages précédents. Mais aujourd'hui, on se concentre sur chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens, des versets 12 à 18. Philippiens 2, 12 à 18. Alors, lisons notre texte avant toute chose. Philippiens 2, 12 à 18. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action. Non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Faites tout sans murmure ni discussion, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous priez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Ce sera mon sujet de gloire au jour de Christ, de n'avoir pas couru, ni peiné en vain. Mais même si je sers de libation en plus de sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Prions encore une fois. Merci mon Dieu pour cette belle journée. Merci pour cette église et pour tous nos frères et sœurs qui sont ici. Comme notre frère a dit, on est prosterné devant toi. Et on est prêt aujourd'hui d'entendre la vérité envers ta parole. Sois avec nous, sois avec moi. Et malgré ma faiblesse, parle avec force aujourd'hui. Parle avec clarté aujourd'hui. Sois avec nous. Amen.
Amen.
Amen. Dans nos études précédentes, au chapitre 2, on a appris que le Seigneur est très préoccupé ou très concerné par notre façon de penser. Et les versets 1 à 4 traitaient principalement de l'unité de l'Église, mais pas seulement de l'unité pour l'unité, mais de l'unité selon les vérités de Dieu. Et les versets 5 à 11 qu'on a étudiés il y a deux semaines, nous enseignent qu'on doit imiter l'exemple suprême d'humilité de Jésus lorsqu'il était sur terre. Et combiner cette unité et cette humilité font une église forte. Une église où l'accent n'est pas mis sur les désirs de chacun, et chacun des membres, mais sur ceux de Christ. L'objectif de l'Église est d'imiter Christ et de plaire à Christ. Et c'est une déclaration très large, je sais, mais tout le reste est secondaire. On peut donc résumer le message des 11 premiers versets en disant « Pensez de cette manière, de telle manière ». C'est-à-dire être unis dans la vérité et adopter l'exemple d'humilité de Christ. Et le texte, aujourd'hui, s'appuie sur cette nouvelle manière de penser qu'on a maintenant apportée, une manière d'unité et d'humilité, et il dit « Maintenant, faites de cette manière. » Vous avez l'exemple d'humilité, vous avez l'exemple de l'unité, et maintenant, faites dans une autre manière. Et commençons par les versets 12 et 13. L'apôtre dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action. Non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. » Et je pense qu'il est très important de définir un terme qui est présenté dans ces deux versets. Et ça, c'est l'obéissance. L'obéissance est la reconnaissance et la soumission à celui qui est au-dessus de nous. C'est une pensée qui met parfois mal à l'aise, et la soumission est un mot qui met mal à l'aise, mais c'est ce qu'est l'obéissance. Quand on envoie un chien à l'école d'obéissance, on n'est pas des chiens, mais c'est une illustration. Quand on envoie un chien à l'école d'obéissance, ou quand on discipline nos enfants parce qu'ils nous désobéissent, on exige d'eux qu'ils se soumettent. Et c'est ce que Dieu exige, et bien plus encore. Pas comme les chiens, mais bien plus encore. Souvenez-vous de l'humiliation de Christ, comme on a parlé il y a 2 semaines. On ne peut pas se soumettre à notre Seigneur plus qu'il ne s'est déjà soumis à la volonté du Père. Mais il nous est ordonné d'imiter l'attitude de soumission et d'humilité de Christ. On se soumet à Dieu en pensant de la manière dont il le demande et en faisant les choses qu'il veut que l'on fasse. Et cette soumission s'accompagne d'une véritable reconnaissance de la puissance et de l'autorité de celui à qui on se soumet. L'expression ici dans le texte « avec crainte et tremblement » est un langage très viscéral. Et c'est un langage très viscéral qui signifie exactement ce qu'il semble être. Et Paul utilise ce langage à dessein. Il dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, soumis à la volonté de Dieu, maintenant, avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action. » Et je voudrais dire quelque chose qui, je l'espère, ne sera pas trop controversé, mais c'est que Dieu fait peur. Rappelez-vous que Dieu n'a pas changé. Le même Seigneur dont nous parlons avec des sentiments chaleureux, qui nous aime, bien sûr, et a sacrifié son Fils pour nous, est le même Dieu qui a parlé à Job au milieu de la tempête. Et Samuel a raconté la semaine dernière que dans Job 40 et 41, Dieu fait peur à Job pour qu'il se soumette. Il force Job à accepter son pouvoir et son autorité en lui montrant toutes les choses qu'il a créées et la réalité terrifiante qu'il est trop puissant pour être remis en question. C'est ce même Dieu qui dit dans Matthieu 10, 28, c'est Jésus qui parle dans Matthieu 10, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gehenne. » Et c'est Dieu. Dieu exige le respect, la révérence, l'honneur, la gloire, oui, bien sûr, mais il exige aussi que nous le craignions. Car s'il est digne de notre amour et de notre affection, il est aussi digne de notre crainte. Alors, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action. Il dit, Philippiens, chrétiens, vous êtes unifiés, vous êtes humbles, vous êtes obéissants et soumis à Dieu. Maintenant, faites ce qu'il dit. Paul n'encourage pas ici un salut basé sur les œuvres, mais au contraire, il ne demande de bonnes œuvres qu'une fois que les cœurs des Philippiens sont en accord avec Dieu. De plus, il dit de ne pas simplement agir comme s'il les observait, mais de suivre Dieu encore plus étroitement maintenant qu'il n'est plus là. Comme Emmanuel le dit régulièrement, la vie chrétienne n'est pas seulement une affaire de dimanche matin. L'obéissance à Dieu n'est pas simplement simulée lorsque nous sommes entourés de nos frères et sœurs ou lorsque l'un des anciens commence une conversation avec nous. Et peut-être vous n'êtes pas en proie à cette tentation de faire semblant, mais je sais il y a d'autres façons de changer notre comportement et de modifier notre obéissance en fonction de notre environnement. Par exemple, Kendall et moi, on avait l'habitude d'accompagner le groupe de jeunes de l'église au camp d'été, chaque année, je pense. Et chaque année, les jeunes devenaient progressivement plus spirituels au cours de la semaine. La première nuit du camp était comme une révélation pour la plupart d'entre eux, car ils entendaient une meilleure musique que dans leur propre église, et ils entendaient un prédicateur qui avait préparé un message spécialement pour les jeunes. Et nous avions des temps de lecture et d'études bibliques quotidiens, deux fois par jour, je pense, et nous entendions des prédications plusieurs fois par jour, deux fois encore, je pense. Et à la fin de la semaine, tous les jeunes, sans exception, tous les jeunes voulaient devenir pasteurs ou missionnaires, et tous allaient évangéliser leurs amis. Il y a une expression en anglais, je ne sais pas si c'est en français, mais il y a une expression qui dit qu'ils étaient prêts à combattre l'enfer avec un pistolet à eau. Mais quand nous sommes rentrés à la maison et qu'ils se sont souvenus que les jeux vidéo existent et qu'ils pouvaient dormir dans leur propre lit, leur zèle a considérablement diminué. Mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Laissez pas votre perception de l'isolement en tant que chrétien vous dissuader d'obéir à ce que vous savez être juste et vrai. Ou, à l'inverse, comme les jeunes, laissez pas la foule des chrétiens qui vous entourent déterminer la manière dont vous obéissez à Dieu. Mais heureusement, Dieu soit loué, on a de l'aide dans ce domaine. Verset 13. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Et je sais que cela peut sembler un peu paradoxal. Les chrétiens reçoivent l'ordre d'obéir, mais on ne peut obéir à Dieu que parce qu'il nous a donné le désir et la capacité d'obéir. Mais vraiment, c'est une bénédiction. Le Saint-Esprit en vous vous révèle pas seulement ce qui est juste et bon, mais il vous donne la capacité de le faire. Et ce verset me rappelle de Psaume 37, et plus particulièrement le verset 4, qui dit: Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Si on lui appartient, on veut ce qu'il veut et on lui obéit. Passons à la suite, les versets 14 à 16. Et ces versets nous enseignent que notre obéissance constante est un témoignage de l'Évangile dans un monde qui nous est étranger. Verset 14. Faites tout sans murmure ni discussion pour être irréprochables et purs, les enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous priez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Paul poursuit son insistance sur l'obéissance en disant: Ne vous contentez pas d'obéir, mais faites-le de bon cœur. Il insiste également sur la séparation des chrétiens du reste du monde. Le langage utilisé ici rappelle Jacques 1, 27, où le Saint-Esprit dit: La religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. Et Paul implique que non seulement votre obéissance, mais aussi votre attitude est un témoignage de Dieu et de la puissance de sa parole. Votre volonté d'obéir et de le faire avec une bonne attitude est ce qui vous distingue de notre monde méchant. Il dit qu'au milieu de cette génération méchante, vous brillez comme des flambeaux, comme un phare, comme une balise de piété. Et le fait de ne pas vous plaindre de votre sort dans la vie suffit à vous distinguer. Mais être un phare fait aussi de vous une cible. Voici une autre illustration. C'est une illustration un peu bête, mais j'espère que ça va marcher. Mais j'ai appris très vite après notre arrivée en France qu'il n'était même pas nécessaire de parler français pour participer à l'un des plus grands passe-temps français. C'est quoi? Nufi, c'est quoi? Oui, exactement, c'est râler. Si la queue est trop longue à la boulangerie, je peux regarder dans les yeux à la personne la plus proche et... Oh, et je fais des bruits français. Et c'est tout bon. Mais si quelqu'un d'autre commence à se plaindre et que je ne me joins pas à lui ou que je hausse les épaules pour ignorer notre inconvénient actuel, je me sens un peu comme un paria. Et je sais que c'est une illustration stupide, mais elle permet peut-être de mieux saisir le message. Obéir à Dieu et ne pas se plaindre constamment de sa situation dans la vie fait de vous un être unique. Si unique, en fait, que Paul compare votre vie à une flamme entourée d'une mer de ténèbres. Mais vous n'êtes pas obligé d'allumer cette flamme toute seule. Vous avez le Saint-Esprit en vous qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Nous savons ce que Dieu attend de nous parce qu'il a révélé dans sa parole, et nous sommes chargés de porter cette parole au monde perdu et mourant. Et ce dernier point est tout aussi important que le premier. Contrairement à ce que croient beaucoup de gens, chrétiens ou non, le but d'un chrétien n'est pas simplement de vivre une vie tranquille et inoffensive qui ne dérange personne. Nous sommes uniques et mis à part en tant que chrétiens obéissants, mais nous n'allumons pas une bougie pour la mettre ensuite sous un panier. Notre flambeau sert à éclairer le chemin, pourtant la parole de vie. En pratique, cela signifie qu'être unique, c'est s'abstenir de toute méchanceté et se conduire d'une manière agréable à Dieu. Cela vous donne le statut de lumière. Mais maintenant que vous avez une pensée céleste et que vos pensées sont conformes à celles du Seigneur, cette lumière doit éclairer la vérité. Notre rôle de lumière dans le monde n'est pas d'être un spectacle que les gens regardent avec curiosité, mais d'être les ambassadeurs de ce vrai Dieu. Vivre différemment, uniquement, oui, mais aussi parler différemment, uniquement. Soyez différents et parlez aux gens de l'espoir qui est en vous. La gentillesse à l'égard du voisin ouvre la porte, bien sûr, mais il nous faut encore être fidèles pour aller jusqu'au bout en lui expliquant la raison de notre gentillesse. Notre gentillesse ne suffit pas à sauver les gens, c'est l'Évangile qui le fait. Et Romains 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? C'est nous. Nous sommes tous ces prédicateurs. Mais malheureusement, nulle part dans ce texte, on ne nous promet un résultat terrestre pour notre obéissance et notre portage de la parole. Être une lumière est un travail difficile, sans garantie qu'on verra le fruit de notre obéissance, de notre évangélisation, de notre ministère dans cette vie. Bien sûr, la vie chrétienne est difficile. Il y a un auteur américain, Eugene Peterson, je ne peux pas le dire en français, Eugene Peterson, peut-être, mais il a appelé la vie chrétienne une longue obéissance dans la même direction. Et je pense que c'est une belle façon de le dire. John Bunyan, un autre auteur puritain anglais, il a écrit le classique chrétien Le Voyage du Pèlerin. Il a décrit le voyage chrétien comme un voyage laborieux, sans fardeau, mais toujours une marche ardue. C'est difficile, mais notre obéissance constante est un témoignage de l'Évangile dans un monde qui nous est étranger. Alors enfin, Paul conclut cette section de sa lettre en affirmant que, quelle que soit l'issue de cette vie terrestre, L'obéissance mène à la glorification. À partir du milieu du verset 16, ce sera mon sujet de gloire au jour de Christ, de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Mais même si je sers de libation, en plus de sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Une fois de plus, Paul exprime sa joie et son plaisir d'avoir servi l'Église et d'avoir servi le Seigneur. Il attend de l'Église de Philippe qu'elle obéisse et, en plus de témoigner de la fidélité de Dieu, cette obéissance est aussi un témoignage que le ministère de Paul a honoré Jésus. Il se soucie peu de savoir s'il va mourir ou de ce qui va lui arriver. Même si je suis épuisé et versé pour vous, je suis heureux d'avoir rendu gloire à mon Seigneur. Et j'imagine que sa relation, la relation de Paul avec l'église de Philippe, était plutôt paternelle, comme en tant qu'emplanteur d'église, en tant qu'apôtre. Et quand je pense à mes propres enfants, j'ai des pensées similaires. Quoi qu'il m'arrive, tant que mes enfants marchent avec le Seigneur, je serai un homme béni. Et si vous avez des enfants ou si vous avez déjà conduit quelqu'un au Seigneur ou formé un autre chrétien comme discipula, vous avez certainement le même instinct paternel à leur égard. On ne peut pas vivre leur vie à leur place. Alors on est comme des parents qui regardent un match de foot et qui les encouragent depuis les gradins. Mais comme Paul avec les Philippiens, on ne souhaite pas et on n'espère pas qu'ils gagnent. On sait qu'ils gagnent. Dieu est glorifié par nos vies chrétiennes, par leur obéissance et notre obéissance. C'est un grand réconfort de lire les nombreuses fois où Paul encourage l'Église à se réjouir. C'est toujours à la suite d'une parole ou d'un commandement difficile, mais l'apôtre, inspiré par le Saint-Esprit, bien sûr, poursuit en soulignant la raison ultime pour laquelle on est chrétien. C'est la gloire de Dieu. Et c'est là le but ultime de l'obéissance, uniquement pour rendre gloire à Dieu. Non pas pour avoir une vie meilleure ou une vie plus facile, non pas pour rendre le monde meilleur, non pas pour avoir des enfants plus sages, mais pour glorifier Dieu. Et toutes ces choses peuvent faire partie d'une vie obéissante, ou non, peut-être non, mais là n'est pas la question. Paul, ici, est en prison, seul et incertain de ce qui va lui arriver ensuite, et pourtant, il nous dit de nous réjouir de l'issue de sa vie parce qu'il sait que son obéissance à Dieu a porté du fruit. Quel témoignage! Et pour nous, en réfléchissant à ce passage aujourd'hui, on devrait certainement considérer notre propre obéissance au commandement de Christ et si on est en train de désobéir notre Seigneur. Mais on devrait aussi réfléchir à la source de l'obéissance et au but de l'obéissance. Cette semaine, après avoir étudié ce texte, je suis personnellement encouragé par le fait que si Dieu attend de ses enfants qu'ils fassent ce qu'il dit, il nous a aussi donné le moyen d'obéir. Ce n'est pas à nous de deviner ce que Dieu veut que nous fassions, ni de faire ce qu'il exige sans aide. Le Saint-Esprit qui habite chaque chrétien éclaire le chemin de la justice, afin que quand on lit la parole de Dieu, on ne soit pas confus au sujet de ce qui est bon et juste. Et on sait ce que Dieu veut parce qu'il a révélé tout ce qu'il faut savoir dans sa parole. L'Esprit de Dieu met aussi en nous le désir de suivre Dieu de près. Mais si vous n'avez pas le désir de suivre Dieu, je prie pour que vous vous détourniez du péché et que vous tourniez vers Jésus pour le salut. Il créera en vous un cœur nouveau et pur qui plaît à Dieu. Dieu est bon et juste, et sa miséricorde s'étend à tous ceux qui l'invoquent. Et pour conclure et résumer le message d'aujourd'hui, souvenez-vous que l'obéissance à Dieu vient de Dieu, l'obéissance à Dieu témoigne de Dieu, et l'obéissance à Dieu nous amène à Dieu. Amen.